L'actualité africaine à 12h30, temps universel, Afrique Midi, avec Nicolas Sûr.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Exprimez-vous, vous avez la parole jusqu'à 9h, temps universel, 20 minutes pour commenter l'actualité de votre choix. Bienvenue dans la Libre Antenne, dans votre Libre Antenne. Vous choisissez le contenu de l'émission, vous choisissez les sujets sur lesquels vous souhaitez réagir et vous êtes encore très nombreux, je l'ai vu avant d'entrer dans ce studio, à souhaiter commenter ces accords de paix. Cet accord de paix, l'accord de Washington, signé il y a tout juste une semaine entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Bonjour Emery.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs des RFI.
À Kinshasa, dans la capitale. Je rappelle juste deux points clés de cet accord. D'un côté, le départ des forces rwandaises du territoire congolais, et de l'autre, la neutralisation du groupe armé rwandais FDLR, un groupe qui, selon le Rwanda, constitue une menace pour sa sécurité. Emery, une semaine après la signature de cet accord, vous êtes dans le doute. Vous doutez que cet accord puisse être appliqué?
Bon, c'est le énième accord d'abord entre les deux pays par rapport à la situation qui se passe à l'Est depuis une trentaine d'années. Et souvent, en fait, il faut le dire, de la part des autorités rwandaises, il y a toujours eu, on va le dire comme ça, une mauvaise foi dans l'application des accords qui ont eu à être signés entre les deux pays. Alors, je l'espère et comme je le disais à un moment donné, j'espère que cette fois-ci, avec l'implication des États-Unis, l'implication vraiment massive des États-Unis, j'espère que cette fois-ci, on arrivera à quelque chose de concret, on verra vraiment la paix s'instaurer à l'est du pays.
Ouais. Aucune sanction n'est prévue, Emery, pour la partie qui ne respectera pas l'accord.
Bon, je pense que si je m'en réfère à ce que j'ai vu, parce que bon, c'était passé quand même en direct à la télévision, je pense que le président Trump a parlé des sanctions qui pourraient être prises contre les partis qui ne respecteraient pas l'accord.
C'est ce qu'il a dit en conférence de presse. C'est ce qu'il a dit en conférence de presse. Mais rien n'est écrit dans cet accord concernant de possibles sanctions.
Je pense qu'il faut peut-être laisser la responsabilité, engager vraiment, voir la responsabilité de chacune des parties, la volonté de chacune des parties à réellement s'impliquer dans cette paix à l'Est. Je pense que cette guerre a trop duré. Même aux Rwandais, elle ne profite pas. Au moment où nous parlons, eux aussi sont en train de subir des sanctions. Certes pas aussi fortes, mais ils sont quand même en train de subir des sanctions de la communauté internationale. Et je ne pense pas que cette guerre profite à qui que ce soit.
Donc cet accord doit être le bon. Après les nombreux accords, les cessez-le-feu conclus ces trois dernières décennies, celui-ci, en tout cas, vous y croyez. Ne raccrochez pas, Emery. Bonjour, Wai.
Bonjour, RFI. Bonjour, les auditeurs.
Également dans la capitale congolaise. Vous êtes plutôt optimiste, vous?
Très optimiste même. Moi, je pense que c'est le bon moment.
Et comment expliquez-vous cet optimisme, Wai?
L'optimisme est justifié par le fait que pour une fois, le Rwanda est désigné clairement comme agresseur et nous comme victime. Et que dans cet accord, on nous demande de vivre en partenariat comme des bons voisins parce que nous sommes condamnés à le rester sur de façon pérenne.
Oui. Alors, Emery, vous êtes toujours avec nous?
Là.
Vous avez entendu Wai à l'instant, votre compatriote, qui dit pour la première fois dans un accord, il est stipulé que le Rwanda est l'agresseur. Vous l'avez perçu comme ça, vous, cet accord? Parce que nombreux ont été les auditeurs cette semaine à me dire le contraire, justement.
En fait, moi, ce qui m'embête toujours dans tous les accords qu'on signe avec le Rwanda, c'est cette mention du FDLR à chaque fois que le Rwandais, cette justification que les Rwandais ont en présentant les FDLR comme une menace à leur sécurité.
Bon, les FDLR, je rappelle, c'est quand même un groupe rwandais. Ils sont à peu près un millier de combattants. Et parmi eux, nombreux sont ceux qui ont participé au génocide de 1994 et qui, après le génocide, ont quitté le Rwanda, se sont installés à l'est de la RDC. Donc, certains d'entre eux sont génocidaires. D'où la crainte du Rwanda, d'où cette menace que représente encore ce groupe, selon Kigali, pour le Rwanda.
Moi, je pense que la menace, elle est très résiduelle. Parce que n'oublions pas quand même que si on parle des FDLR, ça fait près de 30 ans. En admettant que le plus jeune ait eu peut-être 20 ans ou 30 ans, aujourd'hui il a 50, 60 ans. Donc,
c'est pour ça que je dis, et là je me base sur le rapport du groupe d'experts de l'ONU, il devrait y avoir 1000 combattants FDLR, et sur ce millier, certains ont participé au génocide de 1994, mais ils sont effectivement une minorité. On parle d'une centaine de génocidaires.
Donc voilà, et donc ce prétexte-là, je pense qu'avec l'accord que nous avons signé, c'est peut-être la seule partie, enfin pas la seule partie, mais c'est l'une des parties de l'accord que j'apprécie, c'est que ce prétexte-là, je pense qu'il va être définitivement clôturé avec la mise en place de ce qu'on appelle les CONOPS, les comités conjoints de surveillance qui ont été instaurés par cet accord.
Et surtout la neutralisation de ce groupe armé, c'est ce que réclame l'accord, c'est ce que réclame le Rwanda. Et d'ailleurs, la ministre congolaise des Affaires étrangères, pas plus tard qu'hier, a dit « si les FDLR sont une menace, eh bien nous allons y mettre fin ». Wai, vous souhaitez peut-être dire un dernier mot ?
Bon, moi, je pense que nous devons arrêter d'être pessimistes, nous, Congolais. Chaque fois que l'autorité ne fait rien, on se plaint. Et quand on fait un pas, on se plaint aussi. Nous devons comprendre que cet accord, nous devons tous l'accueillir avec joie et nous y mettre. C'est que nos représentants, dans les négociations, dans les mises en œuvre, doivent se comporter sérieusement. On ne doit pas se faire acheter, servir le Congo et non servir leur poche et leur ventre. Si on applique cet accord tel que c'est décidé, je pense que c'est une bonne sortie.
Bon, en tout cas, le Rwanda et la RDC ont trois mois pour neutraliser les FDLR et 3 mois pour que les forces rwandaises quittent le territoire congolais. On suivra évidemment de près ce dossier qui ne vous a pas laissé indifférent vu le nombre de réactions que nous avons reçues depuis vendredi dernier au Standard et sur nos réseaux sociaux. C'est la Libre Antenne, on va parler d'autres sujets. Tiens, on va parler des Comores. Les Comores célèbrent ce dimanche le 50e anniversaire de leur indépendance. Bonjour Mohamed.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de la Radio Mondiale.
Et merci de nous écouter en région parisienne. Vous êtes dans le sud-est de Paris, en Seine-et-Marne, c'est bien ça, à Montereau.
Effectivement.
Vous êtes vous-même comorien et vous nous interpellez sur les festivités que s'apprêtent à lancer les Comores à l'occasion de cet anniversaire.
Oui, tout d'abord, permettez-moi d'adresser mes meilleurs vœux et bonnes fêtes de l'indépendance au peuple comorien, sans oublier les Comoriens de la diaspora. C'est un plaisir pour moi de m'exprimer sur les antennes de la Radio Mondiale et de participer à cette belle émission. Merci. Comme vous l'avez bien dit, les Comores célèbrent ce dimanche, le 6 juillet, le 50e anniversaire de leur indépendance. Bon, il faut dire qu'il y a une très mauvaise gestion de cette indépendance. On a l'impression que les choses ne bougent pas, tournent au ralenti. La population, elle est livrée à elle-même sur plusieurs secteurs, notamment l'éducation, la santé, etc., etc. Et je m'interroge surtout au niveau des coûts pour l'organisation de cette indépendance. Et on n'a pas un chiffre officiel, mais il y a plusieurs invités qui vont venir participer à cette fête.
Oui, plusieurs chefs d'État sont attendus. Il va y avoir une grande parade militaire, effectivement, avec des soldats de Tanzanie, de Chine, des soldats marocains. Évidemment, tout ça a un coût et vous vous dites qu'on ferait mieux de dépenser cet argent autrement.
Effectivement, au lieu d'attendre que l'Agence française de développement et la France, la Chine, le Japon construisent des routes, il faut construire des écoles, injecte quand même de l'argent dans les différentes infrastructures du pays. Pourquoi ne pas investir cet argent? Pourquoi ne pas construire nous-mêmes notre pays? Puisque là, on va dire que Les Comores célèbrent 50 ans depuis que les
D'indépendance, oui.
Comoriens sont indépendants, mais c'est une indépendance plutôt inachevée.
Oui,
dans
c'est
la
vrai qu'il y a
mesure
encore
où.
Beaucoup de défis à relever, notamment en termes de développement. En même temps, mettez-vous à la place de vos compatriotes qui sont sur place. C'est tout de même le 50e anniversaire de l'indépendance. Imaginez-vous que les autorités n'organisent rien.
Monsieur Juan Gomez, il faut que les Comoriens, bon, y compris ma personne, nous soyons tous réalistes. Nous avons de nombreux défis à relever. On a vu la Tanzanie en 2021 ou 2022, si je m'en souviens bien, ils n'ont célébré aucune fête. Ils ont pris tout l'argent qui était destiné à faire des festivités et ils ont fait autre chose. On a vu aussi au Sénégal, moi qui suis en train de vous parler, j'étais au Sénégal durant 6 ans. Il y a eu juste qu'il y ait des levées de drapeaux, je ne me rappelle plus de l'année en question.
Oui, mais là,
mais
c'est le 50e.
Ça,
c'est symbolique, ce sont les 50 ans, Mohamed. Mais je comprends votre commentaire, évidemment, il est pertinent. Surtout que pendant que vous me parliez, je regardais le classement des Comores dans l'indice de développement humain. Les Comores se situent à la 156e place sur 180 pays. En tout cas, merci infiniment, Mohamed, de nous écouter. Donc, à Montereau, en région parisienne, j'en profite pour saluer tous ceux qui nous écoutent dans l'archipel comorien, Grande Comore, Anjouan, Moëlly, merci à tous de votre fidélité. Appelez-nous, vous nous appelez peu hein, de l'archipel comorien, mais je sais que vous êtes de l'autre côté du transistor. 10h51 à Paris, c'est la Libre Antenne, on va parler du Tchad, avec cette décision de l'opposant Succès Masra de suspendre sa grève de la faim, un mouvement qu'il avait commencé le 24 juin. Pour dénoncer sa détention qu'il juge arbitraire. Bonjour Samalim.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Pourquoi souhaitez-vous nous parler de cette actualité ?
Vous savez, Juan, aujourd'hui nous sommes le 50e jour de l'arrestation de Succès Masra. Et 50 jours, c'est trop. Le monde entier, le peuple tchadien, sait que c'est une arrestation arbitraire. Et que le pouvoir veut juste isoler Succès Masra, mais ils sont en train d'augmenter sa popularité. Par contre,
Je rappelle qu'il est poursuivi pour incitation à la haine et à la révolte, complicité d'assassinat, incendie volontaire ou encore profanation de ses sépultures, des accusations graves. Formulé après un massacre intercommunautaire il y a bientôt 2 mois, le 14 mai, c'était dans le sud-ouest du pays, 42 personnes ont perdu la vie, et il est accusé d'avoir provoqué cette tuerie après avoir enregistré un audio qui date de 2023, mais dans lequel Succès Masra appelait les populations du sud à s'armer pour se défendre.
Non, Succès Masra n'a pas seulement appelé, dans cet audio, il n'a pas seulement appelé les populations du Sud à s'armer contre ceux-là qui viennent les tuer. Il a parlé d'Abéché, il a parlé de Kouri-Bougoudi. Kouri-Bougoudi et Abéché ne sont pas les régions du Sud, les
D'accord,
provinces
mais enfin,
du
il
Sud.
A quand même appelé les populations à s'armer.
Non, mais le droit de la défense, c'est un droit naturel. Même un animal, quand tu le piétines, il réagit. Quand l'État est incapable de défendre les populations, les gens viennent d'ailleurs. D'où ils sortent, les Tchadiens ne savent pas. On vient les tuer. Ce n'est pas seulement au sud du Tchad. Même au nord du Tchad, à l'est, au centre, depuis son arrestation, plus de 300 Tchadiens sont tués dans des conditions où personne
alors là,
n'a pu expliquer ça.
C'est Malim, depuis son arrestation il y a 50 jours, vous le disiez tout à l'heure en préambule, le chiffre que vous venez de citer, je ne l'ai jamais vu circuler. Je veux bien vous croire, mais je ne le confirme pas. Voilà, ça me semble un peu exagéré, mais on va essayer de se renseigner. Il me reste 7 minutes avant la fin de l'émission. Je voudrais qu'on donne la parole à un autre Tchadien qui souhaite lui aussi nous interpeller après avoir entendu la suspension de la grève de la faim de Succès Masra. Bonjour Mamadou.
Bonjour Juan, bonjour à votre formidable équipe et à tous les auditeurs des RFI.
Merci Mamadou. Est-ce que vous êtes dans le même état d'esprit que Samalim?
D'abord, je voudrais dire tout simplement que si on est en train d'augmenter la popularité de M. Masra, alors qu'il reste en prison. Alors, cela étant dit, j'ai envie de dire tout simplement que M. Masra a suspendu sa grève de faim après avoir constaté que cela ne paye pas. Mais il faut aussi relever que M. Masra est un Tchadien comme tout autre,
Et pour des raisons de santé, soyons précis, Mamadou, c'est en tout cas ce qu'a dit son avocat.
Oui, mais ça, c'est la conséquence de la grève. Parce que quand on fait grève de la faim, il faut s'attendre à des conséquences.
Bien sûr, mais vous dites qu'il a suspendu sa grève de la faim parce qu'il voyait que ça ne marchait pas. Il a surtout suspendu pour des raisons médicales.
Voilà. Donc, ce que je voudrais relever, moi, j'ai dit tout simplement que M. Massara était citoyen comme tout le monde et la justice est en train de faire son travail. Évidemment qu'il y a un certain nombre d'hommes politiques qui voudraient donner une dimension phénoménale à cette histoire parce qu'eux-mêmes, ils sont aigris en panne d'idées et de cohérence, sont en train de faire vraiment du bruit. Moi, je pense qu'il faut laisser la justice travailler pour que lorsque arrivera le procès, M. Massara va être blanchi ou va être condamné, oui, selon le cas.
Mais on revient à cet audio, à cet enregistrement audio qui fait tant polémique. Il a certes été, à un moment donné, poursuivi par la justice pour cet audio. On est d'accord ?
Oui. Oui, en effet.
Voilà. Et depuis, il y a eu une amnistie qui a été signée. Nous sommes d'accord.
Oui.
Et cette amnistie, elle comprend également les poursuites lancées après la diffusion de cet audio en 2023.
Alors, vous dites que c'est en 2023 que cet audio avait été
enregistré.
Or, la justice n'a pas les mêmes dates que vous.
Ah bon ?
La justice n'a pas les mêmes dates que vous.
Bah écoutez, en tout cas, l'audio date de 2023. Ça, je l'ai toujours entendu. Donc, vous m'apprenez une chose.
Mais
l'audio incriminé date de 2023. En tout cas, vous dites que la justice doit aller jusqu'au bout. Vous ne voyez aucune cabale politique.
Absolument. Absolument. Donc, il ne faudra pas qu'on fasse de la surenchère autour de cet aspect. Et par conséquent, que les gens travaillent sereinement. Lorsque le Premier ministre aura été, n'est-ce pas, mis devant les faits et qu'il est... n'est-ce pas condamné, on le saura. S'il est blanchi, on va le relâcher comme tout Italien qui, n'est-ce pas, a commis quelque chose.
Merci.
Donc, de mon point de vue, je crois qu'il faut arrêter de faire la cabale et il faut arrêter que ces hommes politiques un peu aigris, là, en face de cela, leur chou gras.
Mamadou, je vous interromps. Merci à vous de nous écouter à Djamena. Semalim, merci également de nous avoir appelés. Bonne journée à tous les deux. Au Tchad, il ne nous reste que 3 minutes. Il y avait encore autant de monde au standard, hein, énormément de monde pour réagir notamment à la nouvelle constitution, en tout cas le projet qui a été présenté, rendu public cette semaine en Guinée, mais c'est promis, on aura très vite l'occasion d'en reparler. Je voudrais qu'on termine avec Ibrahima à Thiès, il patiente depuis un moment. Bonjour Ibrahima.
Oui, bonjour Monsieur Juan Gomez.
Au Sénégal, et votre pays cette semaine est devenu le plus endetté d'Afrique, si on en croit la banque britannique Barclays. La dette de votre pays s'élève à 119% du produit intérieur brut.
Bon, ça, ce n'est pas une surprise. C'est comme si quelqu'un qui dit que le soleil se lève a laissé se coucher à l'ouest. Mais vu que le président sortant avec tous les délinquants, vous savez qu'une dette toujours... à une durée. C'est-à-dire, quand on emprunte de l'argent, on dit que c'est pour une durée de telle année, 10 ans, 15 ans, ça dépend de la durée. Donc, on ne peut pas venir en 2024 pour pouvoir peut-être taxer, ou bien s'en profiter, ou bien manipuler les gens pour faire croire aux gens que c'est le nouveau régime qui est à l'origine de cette dette très élevée. Vu qu'on nous avait prédit, le président Ousmane Sonko nous avait prédit la dette, que la dette a dépassé, le mal est plus profond que là où on pensait.
Oui.
Donc, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas une information nouvelle. Ce n'est pas,
une, c'est pas une information, puisque lorsque Ousmane Sonko a tenu les propos que vous venez de citer, la Cour des comptes avait évalué la dette à quasiment 100% du PIB, on est bien au-dessus maintenant, on est à 119%, donc la dette s'est aggravée.
Bon, moi en tout cas, ce n'est pas une surprise hein, pour moi.
Oui.
Pour moi, vu la situation, après tout ce qu'on avait vu avec les mauvaises orientations budgétaires, avec les chiffres cachés, tout simplement, je savais très bien que si tout était au clair, si tout était tiré au clair,
oui,
on aurait une information beaucoup plus surprenante pour certains.
Mais ce que vous dites, c'est la faute à l'ancien régime, c'est la faute à la présidence Macky Sall.
Ça, c'est indiscutable.
Oui.
Bon,
en tout cas, il va falloir se serrer la ceinture désormais.
J'ai pas bien compris.
Je dis, il va falloir se serrer la ceinture désormais, puisque cette dette, elle pèse lourd dans les caisses de l'État, l'État va devoir rembourser, ça va être compliqué, il risque d'avoir des mesures d'austérité dans les prochains mois.
Et tout sera remis sur les rails. tout sera remis sur les rails, parce que tout simplement, vu qu'avec le nouveau régime, avec le fameux projet Djoubanti référentiel 2050, d'ici peu de temps, on oubliera cette date et on en parle, là plus.
Bon, vous êtes bien optimiste en tout cas. Bon, on va suivre évidemment l'évolution de la dette et de la situation financière de votre pays, le Sénégal. Merci Brahima de votre appel. Bonne journée à Thiès. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis tout au long de la semaine. On sera de retour lundi matin. Lundi, tiens, on parlera du Cameroun à 3 mois de la présidentielle. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Passez une excellente fin de semaine. Prenez soin de vous.
PAC au pays de Banque Atlantique. L'offre Diaspora pour soutenir ses proches au pays vous a proposé appel sur l'actualité.